Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Ne peut plus séduire personne. Il ne lui reste plus qu'à vivre entouré de vieilles personnes. Si Charles avait vécu, nous aurions continué à nous voir. M'aurait vu, lui. Charles n'était pas à part. Mais quel âge aurait-il maintenant, Charles? Qu'importe, il serait toujours jeune. Monsieur de Janjou décide de retourner à Lyon. Il se dit qu'il n'a plus rien à faire ici. Et puis chercher qui a l'ADN de Dieu. C'est quasiment impossible. Tous les jeunes qui ont une vingtaine d'années peuvent l'avoir. Alors, et si c'est une de mes connaissances, elle peut être tout aussi bien à Lyon. Mais tout à coup, il se dit que Gilbert, lui aussi une vingtaine d'années, et que le pape a parlé des francs blancs. Les jours passent. Après-midi, le téléphone sonne dans le bureau de Maurice. Il a décroché.
Allô? Oui?
Monsieur, il y a monsieur de Grimaud qui désire vous parler.
Père réfléchit et lui dit. Bon, dis-tu de venir dans un quart d'heure.
Et il décroche. Il se demande ce que lui veut ce jeune homme. Ne peut-il pas passer par la voie hiérarchique?
Un quart d'heure plus tard, le téléphone sonne. Il a décroché.
Oui, monsieur de Grimaud est arrivé. Bien, faites-le entrer.
Le voyant s'allume. Il appuie sur le bouton vert. On frappe à la porte. Et entre. Harold.
Maurice lui dit, venez vous asseoir, monsieur Grimaud.
Et il va s'asseoir en face du bureau.
Je vous écoute.
Voilà, monsieur. J'ai pensé à une chose. Nous sommes une grosse entreprise et qui doit aller de l'avant. Nous devons être au courant des nouvelles technologies pour ne pas être devancés par les autres. Maurice lui dit, nous le savons, je vais toutes les années au salon du bâtiment.
Harold lui dit, oui, bien sûr, mais l'avenir c'est bien autre chose que le bâtiment ou autre. Il y a des nouveautés qui seront l'avenir, comme celle de la biotechnique. Une société qui doit avoir des actions, se doit d'avoir des actions là-dedans, d'investir dans cette science, prendre des brevets, faire des recherches. Plus une société aura de brevets, plus elle sera riche.
Maurice lui dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, avec ces histoires de biotechnique, je suis qu'un maçon.
Il dit, la biotechnique, c'est la recherche pour de nouveaux ciments, nouvelles façons de construire, de nouveaux métiers. Si ce n'est pas vous qui avez les brevets de ces nouvelles inventions, ce sera les concurrents et qui fabriqueront plus vite et mieux que vous.
Maurice lui dit, c'est à voir, moi je connais rien là-dedans.
Vous n'avez qu'à acheter des laboratoires de recherche avec les chercheurs, et comme cela vous saurez.
Et que voulez-vous que je fasse de ces laboratoires?
Vous préparerez l'avenir de votre fils. Si vous ne laissez pas à votre fils une entreprise d'avenir, il coulera et il sera ruiné.
Maurice lui dit, cherche ces laboratoires.
Harold lui dit, justement, je suis venu vous proposer une affaire. Voilà. Il y a dans les entreprises jeunes tout pontois des filiales qui s'occupent de ces choses et l'on peut les avoir à un prix très bas. Elles ne sont pas encore à vendre et vous êtes la première personne que l'on offre cette vente parce que c'est vous et que l'on croit en vous. Si vous permettez, on vous présentera ce que l'on vous offre.
Et qu'est-ce qu'on m'offre?
Harold lui dit, le laboratoire et la clinique Jeune Touriquin. Laboratoire ADN Recherche. Les médias Pontois. Vous fabriquez des ordinateurs et des programmes qui vont avec. Tout vient de la même entreprise et celui qui achète un ordinateur pontois ne peut se servir que des programmes pontois qui sont les meilleurs du monde, sans compter les chaînes de radio et de télévision.
Harold, bien, mais comment gérer tout ça?
Harold lui dit, en fusionnant avec Jeune Pontois, les cadres restent les mêmes, les dirigeants aussi, sauf que nous mettons quelques personnes par-ci par-là à nous pour contrôler tout ça.
Vous voulez visiter tout ça? On peut?
Oui, bien sûr.
Alors visitons tout ça. Vous préparerez les rendez-vous.
Harold prévient la société Jeune Tout Pontois pour les rendez-vous.
Une semaine plus tard, Maurice, accompagné d'Harold, va au siège de Tout Pontois. Ils sont reçus par la direction du groupe et on lui fait visiter ce qu'il y a à vendre.
On lui montre tout d'abord la clinique, la plus belle, la plus grande du monde. Tous les grands du monde viennent se faire soigner. Appareil ultra moderne, rayons laser, greffe d'organes et création d'organes avec l'ADN. Radio en trois dimensions. Il y a la chirurgie esthétique, partielle ou complète. Grâce à l'ADN, on peut donner une peau de bébé à une personne âgée. On lui montre ensuite le laboratoire ordinatoire. Robot. On met sur disquette la mémoire du cerveau d'une personne pour faire des ordinateurs célèbres. Ordinateur à ADN, ordinateur robot et ordinateur greffé chez l'homme. Disquette. Qui reçoit et envoie des informations, etc., etc. Ce laboratoire est comme celui de l'ADN, top secret. On lui montre le stockage d'organes. On lui montre aussi les laboratoires de recherche agricole pour créer de nouvelles espèces de légumes, céréales, animales, etc. On lui montre pas les laboratoires qui créent les chimères et les mutants. Top secret.
ils sont retournés au siège du groupe Jeune Tout Pantois et dit
« J'étais très impressionné par tout ce que j'ai vu, mais je ne vois pas m'occuper de toutes ces choses. »
Le président du groupe Jeune Tout Pantois lui dit
« Vous serez aidé et nous demandons, c'est une fusion, ce que nous demandons comme somme, c'est symbolique. Vous avez bien vu, vous avez bien pu vous rendre compte que ça coûtait beaucoup plus cher que ça. »
Maurice lui dit, « Et pourquoi ce cadeau ?»«
Parce que nous voulons, c'est absolument, que ce soit vous et personne d'autre qui entre à notre conseil d'administration. Nous voulons fusionner avec vous. Est-ce que vous êtes la seule personne qui... à qui notre bien doit appartenir? »
Je ne suis qu'un maçon. »
Vous êtes un maçon, mais maintenant vous êtes plus qu'un maçon. Vous avez la première société de France et peut-être d'Europe. Il n'y a que vous qui pouvez fusionner avec nous. Vous êtes notre dernière chance. Autrement, nous allons disparaître. Et toutes ces recherches, ces laboratoires vont disparaître. Sans oublier les milliers de brevets que nous avons. Tous ces brevets vont partir à l'étranger. Les Américains vont nous les acheter. Il n'y avait que vous qui pouvez sauver tout ça. »
Maurice lui dit, « Je comprends, mais que ferai-je de tout ça ?»
Le président du groupe lui dit, « C'est pas vous qui vous en servirez. Il y a votre fils. »
Maurice lui dit, comptez sur mon fils pour s'occuper de vos affaires, vous me trompez, ne s'intéresse pas à ce genre de choses. Mon fils est un poète.
Le président lui dit, il peut changer.
Ça m'étonnerait. Je vais réfléchir à tout ça. J'ai déjà bien des problèmes avec mes entreprises, mon groupe. Alors, si je m'agrandis, et puis... C'est comme si vous me demandiez à un bottier de devenir boulanger. C'est pas aussi simple que ça. Je vous donnerai ma réponse le mois prochain. De toute façon, il faut que je regroupe l'argent et que j'en parle à mes associés, à mes actionnaires.
Le président lui dit, nous attendrons. Quant aux vos actionnaires, vous avez presque la totalité de vos actions. Vous, votre femme et votre fils.
Il se donne rendez-vous dans un mois.
Il entre dans son bureau avec Harold.
Ils vont s'asseoir un moment au bureau. Henri s'assoit à son bureau. Harold en face de lui.
Il demande, qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Maurice lui dit, c'est intéressant, mais cela me paraît bizarre. Pourquoi vouloir que ce soit absolument moi?
Parce que vous êtes le français à pouvoir les aider. Si vous ne le faites pas, ce sera les Américains qui auront les brevets.
Maurice lui dit, je ne sais pas.
si je fais cette fusion, mes affaires marchent bien. Et si je m'engage là-dedans, je risque d'avoir des difficultés.
Harold lui dit, ne vous faites pas de soucis, tout le monde va vous aider. Faites-le pour votre fils, c'est très important pour son avenir. Vous rendez compte? Vous serez la première puissance avec ce groupe.
Je vais réfléchir. Bien, monsieur, je vous laisse.
Et il le quitte.
Judith demande à voir le président.
Maurice accepte de la recevoir.
Venez, cet après-midi, à 15h.
Bien, monsieur.
Et elle raccroche.
Elle dit à Harold, qui est dans son bureau, je vais lui parler. C'est un brave homme et nous avons toujours réussi à faire ce que nous voulions avec lui. Alors cette fois, tu seras la même chose.
L'après-midi, à 15h, Judith est dans le bureau du président.
Il lui demande « Demandez à me voir, je vous écoute. »
Elle lui dit « Voilà, monsieur, j'ai appris qu'on vous a proposé une très bonne affaire, reprendre et entrer dans le groupe Jeune Tout Pontois. Et je suis venu vous demander c'est d'accepter cette proposition unique. »
Pour vous, Judith, vous n'allez pas vous y mettre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un groupe qui fait de la biotech et de la robotique?
Elle lui dit, c'est l'avenir, monsieur, et vous ne pouvez pas refuser que votre société ait un pied dans les nouvelles industries de pointe.
Il lui dit, l'avenir, pour moi, c'est mon métier.
Elle lui dit, faites-le pour votre fils.
Il lui dit, mon fils. Si vous croyez que mon fils pense à un avenir comme ça, c'est un rêveur, un poète. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse une entreprise qui fait des choses avec de l'ADN? Il n'y comprendrait rien. Moi-même, je suis guère calé dans ces choses.
Mais votre fils peut changer. S'il veut se marier, il lui faudra bien sortir de ses rêves pour nourrir sa famille.
Il lui dit, il veut être professeur.
Elle lui dit, métier de domestique, il ne sera jamais professeur. Ça, je peux vous l'affirmer.
Il lui demande, et comment?
Elle lui dit, il y a d'autres projets pour lui. Ce jeune homme a un but. Et ce but, il ne peut l'atteindre qu'en étant dans votre groupe. Sa vue est toute tracée. Il n'a qu'à prendre la première place.
Maurice lui dit,
bien, mais ne le veux pas. Et puis, j'ai dit que je donnerai ma décision dans un mois, pas avant.
Elle lui dit, bien, monsieur le président.
Elle se lève.
Merci de m'avoir reçu.
Et elle sort.
lorsqu'il rentre chez lui, il va retrouver sa femme au salon.
Entrez.
Elle est assise. Il va vers elle. Bonjour. Elle lui dit bonsoir. Il s'assoit en face d'elle. Elle lui demande journée chargée. Il lui répond oui, très pénible. Et je prendrai bien un petit cognac. Il appuie sur la sonnette qui est sur la table basse. Elle lui demande « Tu es allé visiter l'entreprise de Tout-Pantois ?» Il lui demande « Comment le sais-tu ? »
« Tout le monde le sait. Tous mes amis m'ont téléphoné pour savoir où en étaient les ventes. Je reçois des félicitations de partout. »
On frappe à la porte. Elle dit
« Entrez !»
C'est le domestique. Il lui dit « Du cognac, s'il vous plaît. » Il demande à sa femme « Tu veux quelque chose ?» Elle lui dit
« Non merci, nous allons bientôt passer à table. »
Le domestique se retire. Sa femme continue et lui dit
« J'ai dit que les négociations étaient en cours. Tu as vu, tes actions ont augmenté. Je crois que je vais faire une soirée pour fêter tout ça. »
Il lui dit furieux « Arrête de dire n'importe quoi. » Qui a dit que j'allais acheter tout ça? Et puis, il faut de l'argent. Ce n'est pas cher, mais tout de même, je dois trouver cette somme, soi-disant symbolique.
Elle lui dit, ne te fais pas de soucis pour ce qui est de l'argent. Le président m'a téléphoné et m'a dit que si tu avais besoin d'aide, tous les Français étaient avec toi. Tu penses, personne ne veut que les Américains prennent le groupe Jeune Tout-Pantois. Tu te rends compte de la puissance qu'ils auraient? Non, il n'en est pas question. On parle même d'une guerre franco-américaine.
Il lui dit, arrête de dire n'importe quoi. Tu n'y connais rien de rien. Et puis, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, de ces bio-choses? J'y connais même pas, je sais même pas ce que c'est.
Frappé à la porte, elle dit « Entrez !»
Entre le serveur avec la boisson et le verre. Il va y déposer sur la table basse qui est en face de chez Maurice. Le sert. Merci. Et se retire. Maurice boit une gorgée. Elle lui dit,
si tu n'as rien à en faire, pense à ton fils.
Il lui dit, mon fils, si au moins il voulait me remplacer. Elle lui dit,
ne t'en fais pas, il va sûrement changer d'avis. Et puis tout le monde le pousse dans ce sens.
Le lendemain, à son bureau, le téléphone sonne. Il a décroché.
Oui.
Monsieur, c'est Monsieur le Président de la République qui désire vous parler.
Passez-le-moi.
Allô ? Allô, monsieur le président ?
Allô, monsieur le président Franblanc, ici Marc. Bonjour, vous allez bien ?
Oui, très bien, monsieur le président.
Fait. Je vous téléphone, c'est pour savoir ce que vous avez décidé pour cette affaire dont tout le monde des finances parle.
Maurice agacé lui dit.
Vous voulez dire du regroupement Jeune Tout Pantois Franblanc ?
Oui, c'est cela, le regroupement le plus grand du monde.
Maurice lui dit.
Je sais pas ce que je vais faire. Pour moi, cette affaire est une épine dans le pied.
Marc lui dit, une épine de plusieurs milliards, petit vénard.
Oui, mais une épine tout de même. Je dois avouer, c'est que je ne sais pas quoi faire et dire. Tout le monde me pousse à dire oui. Et moi, c'est plutôt non.
On lui demande,
et pourquoi non ?
Parce que je ne me vois pas dans une affaire de bio. Je ne sais quoi. Moi, à part le béton.
Mais vous avez les gens pour vous aider. Vous ne serez pas seul. La France entière est à votre disposition.
Maurice lui dit.
Peut-être, mais mon fils, lui, non. Et s'il ne me succède pas, à quoi cela va servir ? À quoi bon ?
Marc lui dit. Votre fils va être obligé de changer d'avis et d'être avec nous. Comme nous tous. Avec vous, comme nous tous.
Maurice lui dit,
je vous remercie.
Alors, c'est vous. Si vous refusez, c'est une vraie catastrophe pour la France.
Il risque de devenir une colonie américaine.
Attention, l'avenir de votre pays, du peuple, de nos enfants, sont entre vos mains. Si les Américains prennent le groupe Jeune Tout Pantois, ils auront tous les brevets pour les nouvelles technologies, l'agriculture, les plantes, les greffes, les ordinateurs. Tout l'avenir du monde se trouve dans ces choses. L'alimentation, les soins, la communication. Vous voyez, si un pays a le monopole de tout ça, eh bien, il détient le pouvoir du monde. C'est où la France ? Ou l'Amérique. Et c'est vous qui devez décider. Le monde entier attend votre réponse. La France est sous le pied de guerre. L'Amérique prête. Et même le Vatican est contre nous. Si vous refusez, nous devenons une colonie américaine. Réfléchissez bien.
Maurice lui dit.
Et si nous acceptons, l'Amérique attaquera l'hégémonie française.
On lui dit,
pas pour longtemps, ils auront besoin de nous pour traiter des contrats, puisque c'est nous qui posséderons toutes les nouvelles technologies.
Alors, vous acceptez, vous ne risquez rien, la France entière est à votre côté.
Maurice lui demande, pourquoi est-ce que le gouvernement n'achète-t-il pas ces entreprises ?
Marc lui dit, parce que nous sommes pour le libéralisme. Et puis, une entreprise nationalisée, c'est des emplois qui se syndiquent à fond et qui font constamment la grève. Tandis que si elles restent privées, elles ne peuvent pas se permettre de faire grève.
Voilà, alors, votre réponse ?
Réfléchit un peu et dit « Je crois que je vais signer la mutation des deux groupes à la grâce de Dieu. »
Le président lui dit
« Félicitations, vous avez sauvé la France. »
Il a à peine dit son accord
que tous les médias, journaux, télévision, radio, internet donnent la nouvelle. La naissance du groupe le plus puissant du monde, Juntou, Pontoise, Framblant. Les Américains sont furieux, mais n'osent rien faire pour le moment. La bourse grimpe, la France monte. Maurice reçoit des messages de félicitations du monde entier, avant qu'il ait signé. Il envoie une lettre au groupe Juntou Pontoise pour leur dire qu'il accepte leur offre. Judith lui a téléphoné pour le féliciter. Harold aussi. Seul, Monsieur Mercier reste un peu mitigé et lui dit de se méfier. En entrant chez lui, sa femme le félicite.
Hier de te voir.
Son fils ne dit rien. Deux jours après la lettre qu'il a envoyée, comme quoi il acceptait leur offre, il reçoit une lettre disant qu'il lui donne rendez-vous au siège de Paris pour signer l'alliance des deux groupes. Il y va avec Harold, Monsieur Mercier. Il est reçu au bureau de Monsieur Dutour, Henri Dutour, PDG Pontoise Diap Lyon. C'est lui qui a pris la présidence du groupe à la place d'un PDG Juntou. Monsieur Dutour est un homme grand, mince, cheveux châtains, dans les 50 ans, costume gris. Il y a du monde dans le bureau, toute la direction Juntou Pontoise, les PDG des différentes entreprises, directions, les journalistes, caméraman de plusieurs pays. Deux avocats sont pour protéger les deux parties. Un représentant du gouvernement. On fait asseoir les deux PDG et on leur fait signer, chacun à leur tour, les actes de fusion. Puis Maurice donne le chèque de la somme, le tout filmé, photographié. Puis les deux PDG se sont levés, on a mené tout le monde boire du champagne.
Deux jours plus tard, dans le bureau de Judith, il y a Harold et un homme en costume noir, grand, mince, cheveux gris, très distingué. Ils sont tous deux assis en face de Judith.
L'homme leur dit
« Ça s'est très bien passé. Le transfert s'est bien fait. Il a tout eu pour une bouchée de pain. D'ailleurs, la vente a été faite que pour lui. Rien que pour lui. Comme cela, le groupe Jeune Tout Pontois va se fondre dans le groupe Franc Blanc. Comme cela, ceux qui nous veulent du mal vont perdre notre trace et nous oublier. Et celui qui doit être l'élu a déjà tout, et nous l'aurons dans le groupe. »
Les jours passent. Le groupe Franc Blanc devient le premier groupe mondial. Jamais un groupe n'a été aussi puissant. Franc Blanc a la reconstruction des plus grandes villes du monde et de toute la France. Il a les médias, radio, télévision, ordinateur, la biotechnique de pointe et en plus des produits alimentaires et d'assainissement de l'eau, Pontois. Sans compter les maisons de retraite, d'arrêt, des associations humanitaires, etc., etc. Les jours passent et plus il est heureux d'être devenu ce qu'il est devenu. Un soir, pendant le dîner, il dit à sa femme
« Un petit-fils de saint maçon, je suis devenu l'homme le plus puissant du monde. »
Sa femme lui dit « Fais attention, des jaloux peuvent devenir de grands ennemis. On n'aime pas les gens qui réussissent. »
Maurice se penche vers son fils et lui dit « Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu n'es pas fier de ce que nous sommes devenus ?»
Gilbert fait « Ouf !»
Maurice furieux lui dit « Sale gauchiste, fils à papa qui crache dans la soupe. J'ai sué pour avoir ce que j'ai et j'ai honte de l'avoir. Moi, je ne suis pas contenté de naître dans une famille ainsi, aisée, comme toi. Tu peux bien me dénigrer de ce que je sais, de ce que je fais et de ce que je suis devenu. Mais c'est moi qui te fais vivre. Allez, va dans ta chambre. »
Gilbert se lève. Et sort de la salle à manger. Passe. Les Américains sont furieux contre la fusion Jeune Tout Pontois Franc Blanc. Ils sont furieux que le premier groupe du monde est un groupe français. Ils portent plainte contre la France qui fait une concurrence déloyale contre les autres pays. Parce que le groupe Jeune Tout Pontois Franc Blanc détient trop de choses et en plus ils ont des médias pour eux, pour leur faire leur pub. Ils ont le monopole de l'alimentaire,
les greffes d'organes, le bâtiment. C'est trop. Mais le service des concurrences internationales ne donne pas tort à la France.
Maurice reçoit une lettre. C'est une lettre des membres du Temple 7. Il le félicite pour sa réussite et lui demande un entretien. Maurice réfléchit et se dit « Mon grand-père, qui était maçon, a été compagnon 7. Il a fait son éducation du métier. C'est un peu grâce à eux si j'ai réussi. Je leur donnais rendez-vous pour vendredi après-midi. » Il leur écrit une lettre qu'il accepte de les recevoir vendredi à 15h au siège.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.